Dress Code 31, l'émission qui vous dévoile les origines des incontournables de votre dressing.
Jeans, perfecto, Ray-Ban, escarpins, bikini, salopette, robe de mariée, smoking.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dress Code 31. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des dessous féminins, c'est-à-dire les soutiens-gorge et les petites culottes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord effacées, hein, puis après façonnées avant d'être accompagnées, les courbes féminines subissent bien des transformations au cours des siècles. Donc là, on va vous raconter une véritable épopée à fleur de peau dont les balbutiements vont remonter à l'Antiquité. Alors nous, on ne va pas remonter si loin quand même, mais il faut savoir par exemple qu'au XVIIIe siècle, la femme s'habillait d'une simple chemise comme lingerie, avec un corset assez contraignant en fait, hein, qui remontait les seins, bon bien sûr qui affinait la taille et comprimait les hanches. Mais sans partir de si loin, hein, nous allons commencer notre récit au début du XXe siècle.
Voilà, donc à cette période, les Européennes et les Américaines de la bonne société continuaient à comprimer leur corps pour afficher des silhouettes aux courbes artificielles. Elles devaient souffrir pour être belles. Cependant, toutes les femmes n'acceptaient pas la tyrannie du corset. Les suffragettes anglaises lancèrent une campagne contre ce vêtement oppressant en 1904, bientôt suivie par les Françaises.
Ben oui, quand même, hein, il fallait que les Françaises s'y mettent aussi.
La libération n'était plus loin. En 1906, le couturier Paul Poiret inventa une silhouette révolutionnaire, plus souple, inspirée par celle du directoire à la fin du XVIIIe siècle, qui s'articulait sous la poitrine. Délivrées de la nécessité d'arborer une taille fine, les femmes pouvaient à nouveau respirer. Poiret n'ignorait pas les conséquences sociales de son invention. Ses robes fluides étaient à mille lieues des soieries raides et des faux derrière qu'on appelait alors des tournures, caractéristiques de l'époque victorienne. D'autres créateurs, comme Madeleine Vionnet ou la maison Paquin, reprirent cette nouvelle silhouette.
Voilà, c'était pourtant pas la fin du sous-vêtement de maintien. Alors, si le corset à baleine était devenu indésirable, en fait, maintenant, on voyait des bustiers hein, qui restaient en faveur. Alors, ils étaient tissés et élastiques, ils abaissaient aussi les hanches et aplatissaient l'estomac tout en libérant la poitrine et tout en présentant le défaut de restreindre la liberté de mouvement des jambes. Cependant, la Première Guerre mondiale, ouvrant aux femmes des métiers jusque-là réservés aux hommes, les corsets vont se raccourcir pour donner plus de latitude au mouvement jusqu'à devenir une simple gaine autour des hanches portée avec un soutien-gorge. Alors maintenant, on va écouter une petite chanson de Bobby Lapointe, interprétée par Bobby Lapointe et Anne Sylvestre, qui s'appelle « Depuis le temps que je l'attends ».
Depuis le temps que je l'attends, mon prince charmant.
Voilà, j'arrive, mon aimé. Tu peux broder mon S à côté de ton A. Longtemps déjà, je t'ai cherché. Tant pis pour la jeunesse, on fait avec ce qu'on a.
J'ai astiqué les armoires au point d'en user le bois. J'ai donné ma bassinoire, avec lui je n'aurais pas froid. Pour le lit, j'ai en réserve celui de mes grands-parents. Il est grand temps qu'il resserve depuis bientôt 60 ans. Depuis le temps que je l'attends, depuis le temps que je l'attends, mon prince charmant.
Voilà, j'arrive, mon aimé. De ton lit, je m'en charge, il va se réveiller. Vu le temps que je t'ai cherché, s'il n'est pas assez large, on n'aura qu'un oreiller.
Je dois dire que je penche pour un certain décorum, un mariage en robe blanche avec beaucoup d'harmonium. Monsieur l'abbé Labouture, celui qui doit nous marier, pense que telle aventure se doit d'être enjolivée. Depuis le temps que je l'attends, depuis le temps que je l'attends, mon prince charmant.
Toi mon aimé, s'il n'est pas trop mariole, amène ton purée. Longtemps déjà je t'ai cherché, mais pour la gaudriole, plus besoin de clergé.
Je ne savais pas qu'un homme c'était aussi déroutant. Ce doit être ce qu'on nomme un don juan. Et pourtant, je pense à ce que ma mère a failli me dire un soir. Des choses bien singulières que je ne veux pas savoir. Depuis le temps que je l'attends, depuis le temps que je l'attends, j'ai des doutes maintenant.
Voilà, j'arrive, mon aimé, que madame ta mère excuse mes propos. Mais pourquoi donc t'ai-je cherché? La vie est trop amère avec une vieille peau.
Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends.
Voilà, j'arrive, mon aimé.
Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends.
Voilà, j'arrive, mon aimé.
Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends.
Voilà, j'arrive, mon aimé. Voilà, j'arrive, mon aimé. Voilà, j'arrive, mon aimé. Voilà, j'arrive, mon aimé.
Pas mal. Alors, le soutien-gorge est apparu dès les années 1880, sous le nom de maintien-gorge ou corselet, mais ce n'est qu'une trentaine d'années plus tard que la mode va s'en emparer avec triomphe vers les années 1910. En effet, cette innovation révolutionnaire supposait un corset qui ne monte que jusqu'à la taille, complété par un soutien-gorge séparé. En 1890 et 1917, Samuel Gossard, Rose Kleiner, Gabriel Poix et quelques autres en brevetèrent leur propre version avec un certain succès. Le brevet le plus fructueux fut celui que déposa en 1914 l'américaine Mary Fells Jacob, mieux connue sous le nom de Caress Crosby, qu'elle prit après son mariage. De conception extrêmement simple, son soutien-gorge formé de deux morceaux de tissu reliés par des rubans était joli, mais ne suffisait pas à soutenir les grosses poitrines. Au cours des années 20, de nombreuses femmes adoptèrent le soutien-gorge bandeau qui, en bandant les seins, les aplatissait pour correspondre au type de la garçonne qui régnait à l'époque. Aux États-Unis, des sociétés se créèrent telles Lovable ou Made in Form pour commercialiser de nouveaux modèles. Les années 30 apportèrent des tailles de bonnets variables, des rembourrages et des renforts qui garantissaient un meilleur soutien. Et les années 40, le merveilleux nylon, matière légère et solide, adaptée aux formes du temps. Donc c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que naissent la guêpière et le balconnet. Tous deux accompagnent la nouvelle silhouette féminine qui s'est considérablement amaigrie pendant le conflit. Les Françaises ont en effet perdu 8 kilos en moyenne, entre 39 et 45. La finesse de leur taille ne doit plus rien au corset, les couturiers vont en faire un atout de séduction. Marcel Rochas invente la guêpière qui souligne la taille de guêpe tout en épanouissant la poitrine et les hanches. Marilyn Monroe, Eva Gardner, les stars de l'époque n'hésitent pas à dévoiler leur mensuration de rêve au public. C'est d'ailleurs pour l'une de ces étoiles du cinéma hollywoodienne que le soutien-gorge balconnet est créé en 1943. L'opulente poitrine sandée de la magnifique Jane Russell avait en effet besoin de maintien.
Eh oui, hein, donc il fallait ce qu'il fallait. Donc d'ailleurs, dans les années 50, la poitrine de la femme va se caractériser par sa forme en obus. Hein. Et donc, vous savez, on voit ça sur les vieilles pubs et tout, la poitrine bien saillante, bien pointue là en avant. Alors tous les fabricants, de la maison Cadol à la maison Le Jaby, s'ingénient donc à faire remonter la poitrine des femmes. Poitrine saillante, taille de guêpe et hanches rondes. Donc c'est l'âge d'or de la pin-up. Et donc les stalettes pulpeuses de l'Amérique, hein, des 50s, telles que James Monfield, virent leurs avantages mis en valeur par de nouveaux modèles qui poussaient les seins standards de plus en plus hauts et les rendait de plus en plus conquérants. Et donc ces beautés voluptueuses créèrent une allure adoptée par toute une génération de jeunes filles. Et donc le pull moulant hein, sur un buste pratique particulièrement proéminent, donc qui faisait vraiment tourner la tête des garçons. Et donc là maintenant, on va écouter une petite chanson dont les paroles sont de Boris Vian, paroles et musique de Boris Vian, et qui est interprétée par Magali Noël. Et donc cette chanson s'appelle le Strip Rock.
Petit papi, ma chemise s'envole. Oh, petit papi, ma chemise est envolée. Et l'amour, arrête-toi, et fais-nous voir ça. Fais-nous voir ça, fais-nous voir tout ça, depuis le haut jusqu'en bas.
Si vous m'offrez quelques diamants, j'accepte d'enlever mes gants. Je sais que j'ai la peau douce dans des tas de petits coins. Je sais que j'ai des vraies sœurs et que je suis une vraie rousse. Je sais ce que vous voulez, mais si vous prenez, payez.
Payez, et là, et l'amour, tu te fiches dedans, tu te fiches dedans. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Pas un sou variant, pas un sou variant. Mais plein de tempérament.
Prenez par les sentiments, vous me ferez perdre mon temps. Je veux bien retirer mes fourrures, vous verrez mon décolleté. Je veux bien ôter mes chaussures, c'est plus comme un tour dansé. Je veux bien défaire ma ceinture, mais c'est tout ce que vous aurez.
Allez, et là, et l'amour, t'es vraiment belle, on s'est pas trompé. T'es bien maraqué, et tu vas nous faire claquer.
Oui, mais maintenant que j'ai commencé, tant pis pour vous, faut y penser. Je vais dégrafer le reste, et tant pis pour la pudeur. Je vais achever d'un geste de vous dévoiler mon cœur. Je vais prouver sans conteste que tout est à la hauteur. Le porte-jarretelle, il va de nylon. Le soutien-gorge noir.
Et voilà qui soudain, sans prévenir personne.
Oui,
le projecteur s'éteint.
Oh, bon, on n'est pas vernis, les gars.
Alors, si une partie des femmes des années 60, c'est en réaction passée de soutien-gorge, d'autres se contentaient de l'alternative offerte par Rudi Gernreich avec son « no bra » qui habillait la poitrine d'un voile transparent sans vraiment la soutenir. La tendance s'est poursuivie dans les années 70 avec des pièces légères et discrètes, presque entièrement en tissu. Les années 60 voient le corps de la femme se libérer et se dénuder. Les gaines, combinaisons et autres porte-jartelles, tout comme le soutien-gorge, sont jetés aux orties. Le soutien-gorge a pris des couleurs et ne soutient plus grand-chose. La silhouette féminine est d'une finesse extrême, quasi androgyne. Nous sommes à des années-lumière des généreuses divas des 50s. Des 64 à Saint-Tropez, puis sur les plages niçoises, les premières baigneuses topless font le scandale. En 68, lors de l'élection de Miss Amérique, des féministes jettent à la poubelle leur soutien-gorge, qui symbolise pour elles une oppression sexuelle. Les années 70 voient la lingerie féminine faire le grand écart entre la mode unisexe et l'explosion des dessous ultra érotisé. La femme est désormais maîtresse de son corps et de sa silhouette. Sa lingerie se résume à une paire de collants et un slip et à un voire zéro soutien-gorge. Les dessous deviennent invisibles, unisexe, c'est l'ère du no-lingerie. La révolution sexuelle a eu lieu, la nudité n'est plus taboue. Cette recherche de naturel va conduire les fabricants de lingerie traditionnelle au bord de la faillite. Ils vont cependant renaître grâce aux films érotiques. Le succès inattendu d'Emmanuel en 1974, qui attire plus de 9 millions de spectateurs en France, va contribuer au retour de la lingerie très sexy. La femme des années 80 est financièrement indépendante, la mode est au corps athlétique et aux vêtements moulants. Forte d'une sexualité affirmée, elle va notamment adopter le string, auparavant réservé aux stripteaseuses.
Voilà, c'est les trucs sexy qui vont rentrer dans la mode. Alors, donc, et volant la vedette aux gens, ben, la poitrine des femmes va être l'objet de toutes les attentions dans les années 90. La silhouette idéale est de plus en plus mince, à l'image de Kate Moss, la top modèle du moment. Hein, le sein a donc besoin d'un petit remontant. Le soutien-gorge ampliforme de Wonder Bra existe depuis déjà 1961. Il est composé en fait de 54 pièces et conçu pour rehausser et recentrer toutes les poitrines, même les plus menues. Avec le retour en grâce des poitrines pigeonnantes, il va rencontrer un succès foudroyant dans les années 90, relayé par une campagne publicitaire célèbre où figurait Eza Herzigova, ainsi qu'une mémorable réplique. Hein, donc sur l'affiche, on la voyait donc en soutien-gorge, voilà. Et donc elle disait « Regardez-moi dans les yeux ». J'ai dit « les yeux ». Voilà. Et donc en 1996, il entre même au Guinness Book des records. Et la société anglaise Agent Provocateur, dont le fils de Vivienne Westwood, Joseph Corey, fut le cofondateur en 1994, contribua également à l'érotisation des sous-vêtements en exposant sa luxueuse ligne de lingerie dans des vitrines aussi suggestives que celles que l'on rencontre d'habitude dans les quartiers chauds à Amsterdam, par exemple, ou bien d'ailleurs. Et donc, dans les mêmes années, eh bien, Serge Gainsbourg a écrit une chanson interprétée par Jeanne Birkin, qui s'appelle « Les dessous chics ».
Lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Les dessous chics, c'est une jantelle qui claque dans la tête comme une plate claque. Les dessous chics, ce sont des contrats résiliés qui, comme des bas résiliés, ont filé. Les dessous chics, c'est la pudeur des sentiments maquillée outrageusement rouge sang. Les dessous chics, c'est se garder au fond de soi, fragile comme un pas de soie. Les dessous chics, c'est des dentelles et des rubans d'amertume sur un paravent désolant. Ce serait comme un talon aiguille qui transpercerait le cœur des filles.
Et donc maintenant, on va vous parler de l'autre accessoire incontournable maintenant, donc, qui est la culotte.
Donc pendant des siècles, femmes et hommes vécurent sans cet accessoire qui est une invention relativement récente. Et son utilité hygiénique l'est encore plus. Depuis la nuit des temps et encore au Moyen-Âge, femmes et hommes allaient les fesses nues sous leurs jupes et leurs pantalons. Et ce, jusqu'au milieu du 19e siècle. Et personne ne s'en offusquait. La bienséance voulait que les femmes vertueuses devaient aller sans culotte et que cette dernière, ancêtre du pantalon, était réservée aux femmes aux mœurs légères, aux vieilles dames et aux malades pour se protéger du froid, ainsi qu'aux servantes, uniquement lorsqu'elles faisaient les carreaux.
Les jeunes Sinon, voyez leur fesses.
Voilà, c'est ça. Les jeunes filles de moins de 14 ans portaient également cette sorte de panty bouffant en coton, mais devaient le quitter passé cet âge. Au XVIe siècle, malgré la tentative de Catherine de Médicis d'imposer le caleçon aux dames de sa cour, elle-même désireuse de monter en Amazone sans transgresser les règles de la bienséance, le costume des femmes en général, qu'elles soient de grande ou de petite condition, resta le même. Et ce n'est qu'au cours du 19e siècle que le pantalon de lingerie commença à être porté sous-vêtement. Il fut importé d'Angleterre, où il était porté par les jeunes filles lors de leurs séances de gymnastique. À l'époque, on lui prédit un avenir éphémère, car celui-ci dépassait très légèrement de la robe à la hauteur des chevilles. Les stylistes le firent alors plus court et comme par sa longueur, il ressemblait à l'ancien vêtement d'homme, ils appelèrent ce nouveau sous-vêtement culotte. De plus, avec l'arrivée de la crinoline, la culotte s'imposa comme une obligation. En effet, chaque femme s'asseyant dans ses paniers en métal renversait sa robe et laissait voir l'intégralité de ses jambes et de son sexe. Si elle se penchait en avant, le phénomène se reproduisait dans l'autre sens, laissant impudiquement voir ses fesses.
Voilà, ce qui était impensable quand même,
ouais,
montrer ses fesses à tout va. Et donc, il fallut attendre bien plus tard pour voir apparaître la petite culotte. Et donc, les culottes sont alors larges, avec des fronces à la taille, retenues par une ceinture boutonnée. Alors, elles sont fendues, les jambes descendant jusqu'aux genoux pour se terminer par un volant, souvent superbement brodé, bien sûr. En effet, à cette époque, la mode des robes moulantes vont rendre donc ce type de culottes fort gênantes. Et plutôt que de revenir en arrière et de ne pas en porter, la mode crée la culotte courte, également appelée short, qui va donc s'arrêter au-dessus du genou. Et ce n'est qu'à partir du XXe siècle que les petites culottes telles que nous les connaissons vont se démocratiser et vont faire leur entrée dans le quotidien des femmes, grâce notamment à l'invention de Père Valton, le père de la célèbre marque Petit Bateau. En effet, en 1918, Étienne, le fils du fondateur, invente la culotte sans jambes et sans boutons et remplace la laine rugueuse par la maille en coton écru blanc. Pour plus de commodité, il va remplacer les boutons par une ceinture élastique à la taille et aux cuisses. Toutefois, la marque utilise le terme « petite culotte » qui renvoie plutôt à un sous-vêtement féminin ou enfantin. Valton donc s'inspire de la cantine « Maman les petits bateaux » que tout le monde connaît, je suppose, voilà, pour nommer et déposer le nom de ce nouveau sous-vêtement. La marque Petit Bateau est donc symbolisée alors par le dessin d'une petite fille surnommée Marinette. Alors, on va tout de suite écouter la pub « Petit Bateau » qui est... En fait, c'est une chanson de Jacques Dutronc. Donc, vous allez entendre ça.
Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas ci, fais pas ça, à tata, prout-prout cadet, à cheval sur mon bide. Fais pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas des ongles, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon quand tu tues. Fais pas ci, fais pas ça.
À quoi ça sert d'imaginer des vêtements si on peut rien faire de gens?
Petit bateau.
Bah oui, c'est vrai, hein, si on peut rien faire dans ses vêtements, si on peut pas bouger, c'est pas marrant, surtout quand on est enfant. Alors les années suivantes furent à court. Alors Jacques Dutronc, il a fait plein de pubs de différentes années. Alors c'était toujours la même chanson, mais évidemment le petit texte chanté et puis voilà les images changeaient aussi sur la pub. Alors les années suivantes firent raccourcir davantage encore la culotte et lui donnèrent le visage qu'on lui connaît maintenant, hein, jusqu'à bien sûr au string hein, des années 80. Et donc à cette époque, l'élastane ou lycra, hein, d'abord utilisé pour les vêtements de sport, s'étend maintenant aux vêtements et aux sous-vêtements. Ainsi, la marque Sluggy va faire l'effet d'une seconde peau, son fer de lance. Hein, comme ça, voilà, ça moulait bien sous les vêtements, c'était formidable. Et donc, les femmes portent des pantalons fuseau à l'époque ou aussi des leggings sous lesquels elles ne tolèrent plus les marques d'une culotte. Et donc maintenant, bien sûr, bah, le string va être partout. Mais il sera peu à peu détrôné par le slip brésilien dans les années 90, car sa bande plus large à l'arrière le rend en effet plus facile à porter et puis peut-être aussi un peu plus confortable. Donc là, on va écouter une dernière petite chanson d'Alain Souchon qui s'appelle « Sous les jupes des filles ».
Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire. Par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Elles, très fières, sur leurs escabeaux en l'air. Regard méprisant et laissant le vent.
faire. Elle, dans le soir, la faiblesse des hommes, elle sait que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. On en fait beaucoup, se pencher, tordre son cou, pour voir l'infortune à quoi nos vies se résument, pour voir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils, la mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves. Parfois, ça les gêne qu'elles veulent pas. Qu'on regarde leur guibole, les garçons s'affolent de ça. Alors, faut que ça tombe, les hommes ou bien les ballons. Les bières, les Khmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge. Fanfare, bleu, blanc, rage. Vert de rouge et vert de rage, l'honneur des milices, tu seras un homme, mon fils. Elle, affiée sur leurs escabeaux en l'air, regard implorant et ne comprenant pas tout. Elle, dans le grave, la faiblesse des hommes, elle sait que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent, pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles.
Au début des années 2000, l'histoire de la lingerie voit un retour à l'hyperféminité. Véritable produit de mode, la lingerie est désormais accessible à toutes et partout. La lingerie s'achète à bas prix par correspondance au supermarché. En parallèle, le marché de la lingerie de luxe s'est développé. Surfant sur les vagues rétro ou avant-gardistes, la femme moderne se veut sûre d'elle et de son pouvoir de séduction.
Bien sûr, et donc aujourd'hui, la lingerie va accompagner la vie des femmes et va s'adapter donc à toutes les situations, hein. Donc les plus grandes marques pour tous les genres, à tous les prix. Donc que ce soit sexy, sage, classique, confortable, bref, toutes les possibilités sont offertes pour le plaisir de toutes et de tous. Parce que bien sûr, il ne faut pas oublier les hommes dans l'histoire, voilà. Et donc pour continuer sur cette lignée, notre prochaine émission sera consacrée aux talons aiguilles et aux bas nylons, voilà. Eh bien, on vous remercie pour votre écoute. Et donc, à la prochaine fois. Au revoir.
Au revoir. Prescope 31, l'émission qui vous dévoile les origines des incontournables de votre dressing.
Jeans, perfecto, ray-ban, escarpins, bikini, salopette, robe de mariée, smoking.